Les nuits de France Culture, la nuit des feuilletons, première nuit des feuilletons, nuit commencée en compagnie de Jacques Angery, auteur d'un dossier intitulé « Regardez la radio, les fictions », paru dans le numéro 127 des cahiers d'histoire de la radiodiffusion, dossier dans lequel est grande la part faite aux feuilletons radiophoniques, bien sûr. Nous avons pu suivre les premiers épisodes d'adaptation de romans, par exemple, tels que « Marie des îles », roman de Robert Gaillard, adapté par Francis Didelot, réalisé par Ange Gilles, avec Sophie Desmarais dans le rôle de la troublante et belle Marie. Nous avons pu suivre aussi Les Mystères de Paris de Jeanne Sue, adaptation Yvan Audouard et Jacques Legris, réalisation Bronislav Horowitz avec en tête de distribution Anne Capril, Jean Servais, Louis Seignier, Françoise Roset. Un épisode de L'Idiot de Dostoïevski, adapté par Georges Govy avec Pierre Vanek, Marcel Bozuffi, Sylvia Montfort. Et puis nous avons reçu Alexis Lukashkin, c'est un jeune doctorant russe, il est doctorant en littérature française et sa thèse est consacrée à l'influence des romans rocambolesques dans la Russie du 19e siècle. Ponson du Terrail est donc au menu de son travail et il nous a raconté comment les crimes très fictifs, bien sûr, de rocambole, des aventures de rocambole, avaient pu influencer certains crimes très réels, eux, dans la Russie tsariste. On suivit les cinq premiers épisodes du feuilleton Gil Blas de Santillane, adapté du roman de Le Sage par Jacqueline Lenoir, réalisation Jean-Wilfried Garrett, avec Jean-Marc Tenberg, Henri Vire-le-Jeu, Rosy Vart, Jeanne Marquen, Jean-Marie Amato. Jean-Marie Amato, d'ailleurs, que l'on n'entendait pas dans le pastiche de signé Furax, Malheur aux barbus. Alors, le titre du pastiche était Malheur aux imberbes. Jean-Marie Amato qui jouait Furax dans le feuilleton signé Pierre Dac et Francis Blanche. Mais cette parodie de radio pastiche vaut bien l'écoute. Et enfin, à l'instant, ce premier épisode d'un feuilleton pour la jeunesse, fille de pilote. Bonsoir, Sarah Tanton.
Bonsoir, Philippe Carby.
Alors, après notre entretien, les auditeurs des Nuits de France Culture pourront suivre un épisode des Misérables de Victor Hugo, puis un épisode de l'Invincible contre le géant sans pitié de Serge Zanetti, et enfin cinq épisodes du Balafré de Pierre Benoît et Claude Carrère dans une adaptation de Francis Didelot. Alors, il est évident que lorsqu'on parle d'un roman, et pas seulement d'un roman policier, on ne doit pas en révéler sadiquement la chute à nos interlocuteurs et à nos auditeurs. En l'occurrence, ce serait vraiment très 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 méchant. Mais avec vous, Sarah Tanton, eh bien si, on va pouvoir parler de la fin d'un roman et donc d'un feuilleton. Le feuilleton, on n'entendra pas, mais le roman, on ne peut qu'en recommander sa lecture. C'est lecture multiple, parce que précisément, c'est un roman qui a de nombreuses fins. Pourquoi donc ce roman anglais n'a-t-il pas de fin canonique, si j'ose dire? Vous êtes professeur Sarah Tanton de littérature et culture britannique à l'Université de Paris, et vous allez donc nous parler de ce grand roman, Le mystère d'Edwin Drood, Charles Dickens.
Oui, c'est un roman qui n'a jamais eu de fin, parce que Dickens est mort après avoir fini la moitié du roman. Donc il n'y avait que la moitié des livraisons prévues. Et tout de suite, cela a saisi l'imaginaire populaire. Il a eu des tentatives de reconstruire la fin. Donc depuis 1870 jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte d'industrie de la fin de Edwin Drood.
Et c'est vraiment, on est vraiment dans le cœur de notre nuit des feuilletons, parce que ce roman, il était publié. Alors on appelait ça, c'était des fascicules, mais c'était en feuilleton. C'était chaque début de mois pendant quoi, combien, 6 mois,
on a eu. Oui, donc c'était 6 mois, donc c'était des livraisons mensuelles, très soigneusement préparées, comme des petits livrets, avec quelquefois 40 ou 50 pages de publicité devant et derrière, souvent choisies par Dickens. Donc c'était quelqu'un qui était maître de son empire et qui voyait la littérature comme faisant partie de la société, de la vie commerciale, et il n'avait pas du tout une idée de littérature au-delà, une sorte d'art parfait, sali par la vie quotidienne, au contraire.
D'ailleurs, il avait déjà,
Dickens rêvait de...
Ses romans précédents avaient déjà été publiés en feuilleton.
Oui, depuis les années, fin des années 1830, il commençait avec ses livraisons mensuelles, qui aussi avaient l'avantage de pouvoir étendre la littérature à un public plus pauvre, un peu moins lettré, parce qu'on pouvait lire 2-3 chapitres, largement suffisant pour beaucoup de personnes à lire, qui lisait lentement, mais aussi qui atteignait un public très large, donc qui allait jusqu'à l'aristocrate. Donc c'était un véhicule médiatique assez extraordinaire. un peu comme les véhicules qu'on voit en France, de la même manière. Donc on voit, par exemple, Balzac, avec la même optique de refaire et de livrer ses romans par petits morceaux, ou même quelque chose comme la presse de Girardin. En 1836, 19e, on fait un énorme livre sur cette façon de livrer l'information, les histoires à un public par petits morceaux et en fait de les éduquer, de donner une sorte de pédagogie de l'histoire. Récit.
Et puis ça permet finalement de parler beaucoup plus des histoires que l'on a lues que lorsque l'on lit un roman, parce que quand un roman sort, on le lit, mais on n'est pas nécessairement face à des amis qui l'ont lu, ils le liront peut-être une semaine plus tard, alors on leur dit je ne t'en parle pas. Tandis que là, c'était vraiment toute l'Angleterre lisait en même temps ses aventures.
Exactement, avec un petit temps de latence qui permettait au lecteur de fabuler un petit peu, de souhaiter que telle ou telle personne se marie avec un autre, de souhaiter qu'on pouvait sauver tel ou tel personnage.
On écrivait à l'auteur aussi.
Ils écrivaient à l'auteur, donc il y avait un va-et-vient assez extraordinaire. Et justement, Drood, c'est un roman qui avait un temps de latence extraordinaire. Maintenant, ça fait plus d'une centaine d'années où on attend.
C'est très dangereux d'ailleurs, évidemment, cette publication en fascicule, en feuilleton, parce que le jour où l'auteur meurt, et surtout quand il s'agit d'un roman policier, enfin une sorte de roman policier, là, la frustration peut être immense. Elle a été immense, sauf que c'est finalement le roman peut-être dont on parle, non pas le plus, des romans de Charles Dickens. Oui. On parle plus de Copperfield, de Oliver Twist, mais malgré tout, c'est quand même le roman, évidemment, qui fait le plus parler.
Absolument, et c'est un roman qui a vraiment saisi l'imagination des gens, et il y a des associations très très sérieuses sur qui se rencontrent à Londres toutes les semaines pour essayer de parler de Drood et d'une sorte de Drood mania qui s'installe.
Alors moi, quand j'ai fait votre connaissance par la lecture, c'était dans la revue des Deux Mondes, et vous avez signé un texte donc sur Edwin Drood. Vous êtes passé par la British Library,
absolument. Oui,
oui. Il a fallu vous replonger là. Enfin, c'est tout un cinéma qu'on se fait, là, j'imagine, non?
C'est un endroit magnifique où justement beaucoup d'universitaires français ont travaillé. Et on peut demander de regarder les fascicules dans leur état originaux. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on vous les donne sur un petit coussin. Il faut les lire soigneusement parce que c'est un papier un peu acide qui se désintègre facilement. Et c'est là qu'on voit ces livraisons de Drood absolument magiques, insérées dans les publicités avec des produits de l'Empire, du gingembre pour Noël, le cacao, en fait tous les produits de l'Empire qu'on voit et que Dickens décrit dans les chapitres. Et d'ailleurs, alors évidemment, on ne peut pas acheter de l'opium dans les publicités. Mais tout le monde médical est là avec la laudanum et tous les produits qu'on utilisait. D'ailleurs, l'opium liquide était utilisé comme une sorte de paracétamol aujourd'hui. Les gens l'achetaient, mais évidemment, il y avait d'autres effets. C'est pas comme le paracétamol, c'est pas hallucinatoire.
Alors justement, le titre de votre article, Sarah Thornton, c'est donc Edwin Drood, un spectre hante la British Library. Il faudrait quand même raconter, parce que tous les auditeurs ne connaissent peut-être pas ce roman. On peut leur raconter et on leur raconte. Si on leur raconte la fin, c'est pas la fin qu'ils vont lire tout de suite, puisque s'ils lisent le roman de Dickens dans quelque édition que ce soit, il y a pas de chute. Sauf qu'il y a des tas d'ouvrages qui sont parus avec des chutes plus ou moins différentes. Qui est cet Edwin Drood et est-il pourquoi un mystère autour de lui? C'est un mystère autour de sa vie, de sa mort.
Oui, donc Edwin Drood, le titre, donne tout de suite l'idée que peut-être ce Drood, qui est un nom qui est très, très étrange en anglais, qui fait penser à druide, à dread, la peur, à la mort, dead. C'est un mot qui a un sens un petit peu païen. Et on imagine que Drood, peut-être, c'est celui qui est maléfique, c'est le coupable. Sans connaître le roman, Edwin Drood, c'est pas du tout un nom rassurant de jeune héros qui va se marier à la fin du roman. En fait, Drood, c'est l'innocent, c'est ce qu'on croit. On n'a pas la fin, mais on imagine. Et en fait, celui dont il faut avoir peur, c'est John Jasper. Et donc, ça se passe dans une cathédrale, et le chef de chœur, le chantre, on disait le chantre à l'époque, le chef de chœur est quelqu'un qui a une vie double, qui est quelqu'un de respectable, une sorte de bourgeois de province pendant la journée, et ensuite il va à Londres et il fréquente une fumerie d'opium où, en quelque sorte, il échappe à sa vie morne et triste et un peu confinée. Et donc, au début du roman, fait un rêve d'opium assez extraordinaire et un peu orientaliste, où il imagine qu'il voit la cathédrale là avec lui, dans la fumerie d'opium. Donc, il y a une sorte de vision double qui s'installe. Ensuite, Drood, son neveu, on comprend très vite que Drood est suscite chez John Jasper une sorte de jalousie, parce qu'il est amoureux d'une jeune fille, Rosa Budd.
Il est promis à cette jeune fille même.
Il est même promis à cette jeune fille, et que John Jasper convoite cette jeune femme.
Ils ont très peu de différences d'âge. Hein. L'oncle a 26 ans et Edwin Drood a 20 ans.
Exactement. Et donc, quand on lit au départ, on a du mal à croire. C'est-à-dire que le travail de John Jasper, on imagine un homme de 40 ans. Mais effectivement, il est jeune. Il y a ces tensions entre Jasper et son neveu qui sont difficilement dissibles, c'est-à-dire que on sent les tensions, on sent une atmosphère très malsaine qui fait partie de ce cathédrale gothique avec la moisissure,
le froid.
Ils sont toujours dans le noir, il y a toujours des bougies. Évidemment, Dickens joue sur cette sorte de crépuscule de la province britannique. Et donc, petit à petit, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres tensions qui arrivent pour déstabiliser ce monde provincial britannique. Et ça, c'est l'arrivée de Nicholas et Helen Landless.
Les jumeaux. Un garçon et une fille.
Absolument, les jumeaux qui viennent de Ceylon et qui représentent l'empire inavouable dans un sens, puisqu'ils sont justement landless. Leur nom montre le fait qu'ils ont été chassés de leur terre par les colons, par les Britanniques. Et qui ont un côté très sauvage, donc je cite le texte, et à la fois une extraordinaire beauté, mais un aspect imprévisible qui fait peur à tout le monde. Donc au moment de la disparition de Edwin Drood, on soupçonne immédiatement l'inconnu venu d'ailleurs.
À la peau un peu noire.
Voilà, exactement. Et donc une sorte de hantise de l'empire qui revient comme un revenant, et que toute l'exploitation de l'empire britannique qui ne supporte plus de se taire revient dans ces deux personnages qui sont extrêmement érudits, éloquents, à la fois il y a une sorte de violence dans le regard de ces personnages. Et donc, tout est en place pour avoir un doute sur la disparition de Edwin Drood. Donc, à la fois avec le personnage de John Jasper, fumeur d'opium, et ces deux jeunes gens venus d'ailleurs.
Et puis, il y a la jeune fiancée aussi, Rosa, quand même.
Et Rosa, effectivement, même Rosa n'est pas au-delà de tout soupçon. Et donc,
personne n'est innocent.
Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a 200 fins différentes depuis 1870.
Que vous avez toutes lues, Sarah Thornton?
Je ne les ai pas lues entièrement jusqu'à la fin, mais j'ai feuilleté un très grand nombre, c'est assez fascinant. Et même Rosa, évidemment, on arrive à la soupçonner et de la mettre sur la touche en ce qui concerne la culpabilité.
Ça a dû être la consternation totale. Parce que, alors, quand ça paraissait donc en fascicule, en feuilleton pour Sarah Thornton, mois après mois, il avait, Dickens écrivait et publiait tout de suite, et puis le mois qui suivait, il passait son temps à écrire et il envoyait à Londres, ou est-ce qu'il avait déjà écrit cette première moitié lorsqu'on commençait à être publié ces fascicules?
Disons, comme avec ses autres romans, il avait préparé un plan. Alors le problème, c'est que il n'a pas donné la fin. C'est-à-dire que normalement, dans ses notes, on retrouve toujours les fins possibles. Il n'a pas fait ce travail-là. Il était un peu en retard. Il était malade. Donc, il avait une structure de base, mais il travaillait toutes les semaines pour essayer de livrer en temps et en heure les chapitres quand il fallait. Quelque part, je me demande si c'est pas ce côté spontané, peut-être un peu désespéré, il y avait beaucoup de tension dans la vie de Dickens à l'époque, qui faisait en sorte qu'il écrivait de manière différente que pour les autres romans. C'est-à-dire que on a qualifié par le passé cette écriture d'Edwin Drood, de joycien, c'est-à-dire un côté presque de flux de conscience, ou stream of consciousness, qui n'est pas du tout une écriture qu'on associe avec Great Expectations ou Oliver Twist. Donc on est dans un monde un peu hallucinatoire de toute façon, même sans l'opium, même avant d'arriver dans la fumerie d'opium, on est déjà dans le brouillard de Londres, où le brouillard se mélange avec la fumée d'opium pour créer une atmosphère extrêmement
angoissante. C'est très angoissant, de toute façon.
Très angoissant.
Mais il y avait déjà eu Black House, en français, c'est La Maison d'Aprevent,
voilà.
qui était déjà une sorte de roman
absolument
policier.
Et justement, qui commence avec un brouillard incroyablement épais, donc on voit même pas le continent. Quand on fait un sort de tour de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, pour être plus précis, qui est dans le brouillard, donc un brouillard qui en fait représente l'injustice des systèmes de justice et toutes sortes d'administrations, toutes les administrations qui tournent par an en Angleterre, une sorte de la condition de la Grande-Bretagne qui se périclite, qui est justement une sorte de machine, une machinerie d'exploitation et de non-dit. Donc il y a tout ça qui arrive dans Edwin Drood au moment où Dickens est peut-être le plus vulnérable, avec tout le scandale de sa relation avec Ellen Ternan, la jeune actrice, qu'il est obligé de nier jusqu'à la fin de ses jours. Donc Dickens lui-même se dédouble un peu. Il est l'écrivain bourgeois avec sa femme, avec ses 10 enfants. Et en même temps, c'est Dickens qui va voir sa maîtresse, qui rôde la nuit. Justement, je trouve que c'est très intéressant que les personnes qui nous écoutent après minuit, parce que c'était le moment où Dickens vivait. C'était un insomniaque terrible, Dickens. Il a jamais eu une bonne nuit de sommeil de sa vie. Et pour parier à cette insomnie, il traversait Londres, il allait voir les pauvres, il marchait pour s'inspirer, mais aussi il allait voir sa maîtresse au milieu de la nuit. Donc c'était un personnage un peu double.
Alors Edwin Drood, puisqu'on revenons au personnage de fiction, Edwin Drood meurt ou ne meurt pas. C'est ça aussi le mystère d'Edwin Drood. C'est pas simplement, ce serait pas qui a tué Edwin Drood, c'est Edwin Drood est-il mort? déjà. Et est-ce que Dickens l'aurait ressuscité? Est-ce que ça aussi, ça a divisé beaucoup tous les Anglais de l'époque. Alors, racontez-nous, Sarah Thornton, comment ça se passe finalement, cette disparition? Parce que s'il ne meurt pas, il disparaît au moins.
Voilà. Donc, c'est une sorte de disparition qui.
Aux alentours de Noël.
Absolument. Au moment de Noël, où on retrouve ses effets personnels. Par exemple, une montre qui a été laissée sur le bord de d'une rivière, et il n'est pas là. On ne retrouve pas le corps n'est jamais retrouvé, et on imagine qu'il a été assassiné, et on imagine même qu'il a été mis dans un tombeau dans un sorte de caveau familial vide.
Et dans la chaux vive aussi. Et
exactement,
puis,
dans la chaux vive.
Jeté depuis le haut de la tour. Enfin, il y a beaucoup de violence.
Oui, donc il y a toute une série de violences faites à ce corps qui disparaît et qui donc font partie de ces différentes fins imaginées à la suite de la... Puisqu'en fait, quand on quitte le roman, on sait simplement que Drood n'est plus là. Il n'est plus là, et il y a plusieurs personnes qui sont des suspects. Mais on n'a pas plus d'informations que cela. Et c'est les différents auteurs qui, depuis, commencent à créer un univers autour de cette disparition.
Mais Dickens avait donné énormément de, et peut-être trop, finalement, d'indices. Enfin, à mi-course, c'est-à-dire que justement, si on lit sans savoir qu'il n'y a pas de chute, on lit ses premiers chapitres, ses 15 premiers chapitres, 16 premiers chapitres.
Voilà.
Et on se dit, bon, oui. Bah, évidemment, c'est Jasper, c'est l'oncle qui a 6 ans de plus que lui, parce qu'il est jaloux, il voudrait épouser Rosa, alors que de toute manière, Edwin Drood et Rosa n'ont plus tellement envie de se marier, ils sont très jeunes, c'est leurs parents, enfin leur père qui par testament, ont dit, voilà, il faudrait que ma fille s'épouse, mais eux, ils ne sont pas très amoureux l'un de l'autre.
Non, donc en fait, la raison principale qui aurait pu faire en sorte que Jasper tue son neveu, en fait, n'est plus
de saison.
L'actualité n'est plus de saison.
Mais de même que la vengeance, si Neville et Helena sont venus en Angleterre pour venger leur propre père qui aurait été insulté par le père d'Edwin Drood, enfin tout ça est tout
voilà,
à fait conjectural.
Exactement, il y a tous ces détails-là. Mais il y a énormément de sous-entendus dans la texture de l'écriture de Dickens. Je crois que c'était en 1914.
Un procès.
Il y a un procès, mais des avocats à Londres sont amusés à monter un spectacle, mais avec des vrais avocats et même avec l'écrivain G.K. Chesterton, pour interroger des acteurs qui étaient, par exemple, Rosa Budd, les Landless, et aussi le Bedeau et le maçon qui a montré à Drood comment marchait
le produit pour dissoudre
les corps.
Il y a beaucoup de suspects possibles.
Donc tous les suspects sont interrogés. Et souvent, ça tient à des mots de Dickens ou des suggestions enfouies dans le texte qu'on ne remarquerait pas forcément. Donc, un travail minutieux pour essayer de trouver autant de ce qu'ils appellent « circumstantial evidence ». Donc, ils ont rien de très...
Il n'y a pas de preuves
preuves dures, mais c'est des preuves de circonstances. Mmh. La façon, les relations entre les gens, ce qui est censé avoir eu lieu. Il faut dire, c'est une forme de droit quand on lit ce procès. C'est une forme de droit très britannique quand même, avec beaucoup de suppositions, l'état d'esprit des personnages. Donc on tisse tout une structure, une condamnation sur des récits. des récits racontés par les
autres. Il y avait Georges Bernard Shaw aussi qui était dans l'affaire, je crois. Enfin,
je crois qu'il était aussi...
Oui, oui. Chesterton, bon, bien sûr.
Oui, oui.
Il présidait. Voilà. Avec quel bonheur il avait présidé
ça. Donc ça a dû être un moment assez extraordinaire d'assister à ce procès. Et très drôle parce que, évidemment, les acteurs, ils ont joué à fond leur personnage avec les accents de la province.
Alors, tout de suite, deux clans se sont affrontés dès 1870. Enfin, il y a eu plus que deux clans, sans doute, mais en tout cas, il y avait au moins ceux qui croyaient à la mort d'Edwin Drood, c'était les Understakers, c'est ça ? Entrepreneurs de pompes funèbres, c'est un peu la traduction. Et puis, ceux qui n'y croyaient pas, donc, étaient les résurrectionnistes.
Ah,
parce que les gens se sont battus à la fin du siècle, du 19e siècle, pour dire non, Drood n'est pas mort, si, il est mort, et après, qui a tué Drood, etc.
Oui, donc effectivement, donc il y a les deux pouvoirs, les pouvoirs de la lumière et de la nuit. Et effectivement, il y a tout un courant qui a tenté de créer une fin, comme on voyait par exemple dans Oliver Twist avec des mariages et de nettoyer un petit peu tout le côté sombre et inachevé. Quelquefois avec des fins horriblement mièvres, en fait, que même Dickens...
Des happy ends.
Oui, des happy ends, que même lui n'aurait pas aimé au début de carrière. Et sinon, des choses bien plus sombres et glauques même, qui voient justement, qui va beaucoup plus vers une sorte de récit Jekyll and Hyde, donc le docteur Jekyll qui est en Jasper John.
Mais peut-être aussi en Drood. Peut-être aussi chez Drood, chez tous les personnages.
Exactement, que personne n'est aussi beau et parfait qu'il ne le semble au départ. Et il y a même un psychiatre qui a monté tout un sort de fin pour Edwin Drood, qui est en fait une sorte de... Il fait une psychanalyse de Jasper pour montrer qu'il souffre d'une sorte de...
Schizophrénie
ou une sorte
que l'opium n'arrange pas.
Bipolarité, et que justement l'opium c'est une forme de self-medication, c'est-à-dire qu'il prenait de l'opium pour soigner cette tension. Donc à la fois on a des fins qui sont un peu légales. Nous avons aussi donc le côté psychiatre, psychanalyse, et nous avons aussi un côté roman populaire avec comme la fin du roman bourgeois réaliste qui se termine toujours avec un mariage qui marie ensemble non seulement les personnages mais les fortunes. Donc il y a ça aussi.
Il y a un roman qui termine Edwin Drood, enfin pas vraiment. C'est Frutero Lucentini, écrivain italien
magnifique.
Qui il y a une trentaine d'années avait publié donc Dickens, Frutero et Lucentini, l'affaire D, ou le crime du faux vagabond, c'est au seuil. Alors là, on a parlé de toutes les fins possibles et imaginables pour Edwin Drood, mais on va pas donner du tout la fin de l'affaire D, parce que là, c'est à lire. Mais après avoir lu quand même le mystère d'Edwin Drood de Dickens, sans avoir cette chute-là, parce que c'est... Bon, n'en disons pas plus. Vous avez dit, Sarah Thornton, qu'il y avait eu des procès. Il y a eu aussi Conan Doyle, qui lui, alors évidemment, faisait tourner les tables ou avait des relations spirites, et il avait un petit peu parlé comme ça à Dickens, mort, 30 ans après la mort de Dickens, mais ou 40 ans après, pour lui faire raconter la chute.
Oui, exactement. Donc ça, c'est une jolie histoire aussi. C'est de pouvoir imaginer qu'on pourrait avoir un lien avec Dickens directement, puisque Dickens lui-même aussi adorait tout ce qui était le spiritisme, et de dire que voilà, il y avait ce texte qui a été dicté par Dickens de l'au-delà pour terminer l'histoire.
Et alors, qu'a dit Conan Doyle? Je crois qu'il n'a rien dit.
Je crois que Doyle était aussi quelqu'un comme Dickens qui avait son royaume et
sa noirceur.
Oui, exactement. Donc, je crois qu'il voulait pas se mouiller trop, il voulait pas être trop sur la touche pour donner la fin, mais évidemment, il était très intéressé par la possibilité que Sherlock Holmes lui-même vienne résoudre ce cas. étrange de Edwin Drood. Et d'ailleurs, ça a été donc il y a plusieurs romans où Sherlock Holmes essaie de enquêter. Et quelquefois, il le fait, comme dans l'affaire D, avec Arsène Lupin, avec Hercule Poirot.
Alors, il n'y a pas Arsène Lupin dans l'affaire D, mais il y a Maigret.
Oui, les Maigret, oui, oui.
Il y a Sherlock Holmes, il y a le père Brown de Chesterton.
Voilà, exactement.
Il y a des tas de détectives, pas Miss Marple, mais enfin, en tout cas,
oui.
Et c'est Poirot qui a le bon rôle. Mais
oui.
Sherlock Holmes aussi, parce qu'il sait. Alors, Sarah Thornton, il y a eu aussi évidemment des tas de pièces et très rapidement des adaptations théâtrales, mm-hmm. mais il y a eu aussi une comédie musicale il y a une trentaine d'années. Elle était signée Rupert Holmes. Quel nom? Et c'était à Broadway. Alors, il y avait, évidemment, c'était la pièce, on racontait, enfin, on chantait. Et puis, qui pouvait bien être le coupable? Alors, là, c'était, la demande était faite aux spectateurs de voter. Qui, à votre avis, est coupable? Alors, vous avez-vous une idée? Comme ça, on entendra la chanson de la coupable que vous souhaitez, Sarah Thornton.
Oui, c'est magnifique. J'imagine que, vu les autres manières, parce qu'il y avait aussi un moment de crowd drooding qui a eu lieu de la manière similaire, où ils ont demandé à peu près à 2000, 3000 personnes de donner leur avis et pour trouver un coupable. C'est souvent, finalement, Jasper, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Mais Jasper est souvent vu comme le coupable.
Alors, on va écouter Jasper qui fait sa confession. Voilà.
I will not lie, I wished Ned to die. Twice dead am I. A man could spit in twain, yet two all eyes remain. A soul genteel who can conceal the venom in his brain. And if he draws upon the pause in madness, opium smoke supplies. Why this great surprise? There are two men in me, and cunning bright is he, who hides himself, resides himself, for I've no eyes to see. But now I think he's at the brink of breaking through the door. I'm in, he's out, I'm out, he's free, I'm free, I'm me once more.
Alors que dit-il, Sarah Thornton?
Ça
a l'air simple pour vous, mais
oui.
Tout le monde ne comprend pas l'anglais. Que dit Jasper dans cette comédie musicale?
Donc Jasper, peut-être la phrase la plus parlante, c'est il dit qu'il est twice dead. Donc il a été condamné deux fois, peut-être pendant la vie et d'avant. Déjà, il se sentit condamné avant comme personnage et ensuite. Pour le meurtre de son...
Mais il l'a bien tué, là, alors.
Yes.
C'est pas joli, joli, tout ça. Tuer son neveu, qui a 6 ans de moins que lui. Mm-hmm. Enfin, soit... C'est...
Oui, pour finalement...
Pour rien.
Pour rien.
Enfin, de toute façon,
puisque
tu jamais,
il aurait pu, peut-être...
quelque chose d'utile, mais... Oui. Alors, il y a une... On va écouter une autre chanson, parce qu'il y a aussi il y a aussi les femmes qui sont suspectes, quand même. Il y a donc Elena, la jeune Ceylanaise, Sri Lanka aujourd'hui,
oui.
et puis il y a Rosa. Alors, vous choisissez qui, Rosa ou... Rosa, donc, était la promise, mais qui, finalement, n'est pas très amoureuse d'Edwin, pas plus qu'Edwin est amoureux d'elle.
Comme coupable.
Oui.
Moi, j'aurais préféré choisir Rosa.
Alors, écoute.
Parce que je crois qu'elle mérite une punition parce qu'elle est horriblement.
Futile.
Oui.
Légère. Elle taquine. Oh, elle taquine.
Oui,
quoi.
Oui. Et tandis que Helena, elle a un côté extraordinairement intéressante et puissante et imprévisible. Mais ça, c'est très personnel.
Ah,
mais
ouais.
Rosa Bud, avec un nom comme Rosa Bud, c'est tellement parfait.
Il y a
le bourgeon et le rose, que quelque part elle doit être coupable.
Donc c'est vous, Rosa, qui êtes coupable.
Were you so blind you could not see I killed him, yes? And it was wonderful to do, I do confess. To have it done, to do him in, to see it through. You surely know by now I meant to. Thought you I was so blind as not to know your mind. of what intent each compliment you claimed you meant as kind, to feel myself enrobed and probed with every movement of your eyes. Ah, but realize, a child can go quite mad, and not know good from bad, and calmly plan to kill a man, and feel but only glad to rid herself to be.
Alors, Sarah Thornton, elle avoue. Rosa,
oui, elle avoue et elle a manifestement pris énormément de plaisir à do him in, comme elle dit.
Mais où est le corps?
Bah voilà, ça c'est le problème, c'est que je crois qu'on va savoir à la fin de justement de ce musical où est le corps.
Ah ben là, c'était on faisait venir les chanteurs à la demande du public, c'est-à-dire si le public votait pour X, X venait sur scène et chantait sa confession et voilà. Enfin donc vous avez choisi vous Sarah Thornton donc deux coupables possibles, j'espère.
Oui.
Et Rosa, mais c'est complètement contradictoire, on est bien d'accord.
Complètement.
Donc on est dans la drôle de littérature.
Donc
là.
On est absolument dans le même. Je crois qu'il nous a plongé dans un petit mystère là, Dickens, qu'on on va jamais arriver à voir le bout.
Il y a aussi une version de Le mystère d'Edwin Drood, enfin résolu par Paul Kinnett. C'était publié dans l'Instant Noir avec une présentation de Jacques Boudou. C'était assez intéressant aussi. Mais vous les connaissez quasiment toutes, donc
Oui, pas forcément intimement, mais j'en ai entendu parler de tous ces. Déjà d'arriver au bout de tout ce que Dickens a écrit lui-même.
Et John Dixon Carr aussi a écrit Une chute. Voilà. Mais écoutez, de toute façon, il ne peut pas y avoir 36 solutions différentes. C'est même étrange que 200 personnes ou 300, maintenant, j'en sais rien, aient décidé de donner une fin à ce roman inachevé, à cette fugue inachevée, pour citer Sylvère Monod dans la Pléiade.
Oui, Sylvère Monod, elle a fait un travail extraordinaire sur Jude aussi. Oui. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui n'arrête pas de titiller l'imaginaire. Et aussi de dire quelque chose peut-être sur le lien entre la Grande-Bretagne et les colonies à l'époque, avec l'Empire, commençait à être très tendu, et une sorte de compréhension dans un sens de l'exploitation qui était à la base de cette relation. Mais en même temps, une sorte d'idée que c'était là où il y avait le commerce. Et dans les pages d'Edwin Drood, il y a énormément de produits venant de l'Empire, parce que c'est Noël. Donc, il y a du gingembre, confit, il y a du thé, l'absinthe.
De même que dans le roman publié par Charles Dickens et Wilkie Collins, qui a son petit rôle dans l'affaire D, ou le crime du faux vagabond. Ça s'appelle L'Abîme, en français, publié au masque.
Oui.
Quel est le titre anglais?
Ça s'appelle No Thoroughfare. Donc, veut dire que c'est No Through Road, c'est un sort de cul-de-sac.
On est dans une
c'est plus
boutique
joli,
de vin aussi.
En français.
Les marchandises sont là. Alors, en fait, conseil aux feuilletonistes d'aujourd'hui, c'est publier, mourir au milieu de l'histoire, et comme ça, pendant des siècles, on parlera de votre œuvre.
Exactement. C'est toujours. Une très bonne chose, quelque part, de disparaître avant de terminer un grand roman.
Bon, on va terminer la nuit, de toute manière. Merci, Sarah Thornton. Donc, je rappelle que votre article, Edwin Drood, Un spectre hante la British Library, c'est à retrouver dans la Revue des Deux Mondes. C'est un numéro de novembre 2018.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà, et on conseille évidemment de lire Edwin Drood, le mystère Edwin Drood. Et qui sait qu'un auditeur ou une auditrice va peut-être résoudre différemment ce roman. La nuit du feuilleton, cette première nuit du feuilleton se poursuit. Les Misérables, L'Invincible contre le géant sans pitié et puis Le Balafré.